Bonjour, ici Célia Héron, hôte et coproductrice du podcast Brise-Glace. Avant de vous laisser plonger dans notre toute nouvelle série audio, il n'y a qu'à m'expliquer, un mot pour vous signaler que les podcasts du temps se développent. Découvrez Sous la Coupole, notre podcast d'actualité politique, et bien d'autres encore sur la page letemps.ch/podcast. Et j'en profite pour vous dire que vous pourrez bénéficier de nombreuses offres d'abonnement web et print sur la page letemps.ch/abonnement au pluriel. Bonne écoute!
En fait, ce qu'il y a de très paradoxal, moi, j'ai trouvé dans cette expérience, c'est que on réfléchit beaucoup plus à la question de le garder ou de pas le garder après. Et ça a été beaucoup plus dur après qu'avant. C'est après qu'on s'est dit, est-ce qu'on a bien fait? Est-ce qu'on aurait dû faire autrement? Est-ce qu'on a vraiment pesé le pour et le contre? Puis on se rend compte que non, on n'a pas pesé le pour et le contre. En réalité, on a pris la décision pour toute une série de raisons rationnelles, mais pas beaucoup pour des raisons affectives.
Bienvenue dans la saison 3 de Brise-Glace, un podcast du temps qui s'intéresse à tout ce qu'on n'ose ni dire ni demander aux gens qui nous entourent. Quand le diagnostic tombe, c'est un abîme qui s'ouvre sous les pieds de Claude et de sa compagne. Leur bébé, tant attendu, est atteint de trisomie 21. Au micro de Brise-Glace, ils nous racontent l'incertitude, la décision prise ensemble, très vite, de mettre un terme à cette grossesse. Et la traversée en tant que couple, mais aussi en tant que conjoint, père et homme, de l'épreuve d'un tel deuil.
Alors, je m'appelle Claude, j'ai 57 ans, j'habite à Genève, je travaille dans le domaine de la rédaction. J'ai 4 enfants, j'ai 3 enfants d'un premier mariage, qui sont grands. Et avec mon épouse, donc on est remariés, on a une petite ensemble qui a 2 ans et demi, et on voulait un deuxième enfant, donc on l'espérait. Mon épouse avait fait déjà une fausse couche, et puis là elle était enceinte et tout se présentait bien en fait.
Je peux vous demander quel âge elle avait au moment de sa grossesse ?
39 ans. Elle est tombée enceinte très facilement. On avait fait un premier contrôle chez son médecin, les choses se présentaient bien, le bébé avait la bonne taille, tout s'annonçait comme on le souhaitait. Et vous voyez, il y avait eu cette fausse couche juste avant, donc là c'était bien parti, on se réjouissait, c'était super. On l'avait dit à tout notre entourage, à quelques amis proches, elle l'avait dit à ses collègues aussi et à son employeur. On cessait d'en faire un secret. Il faut dire que ça se voyait. Donc, ça expliquait aussi qu'on en parlait plus facilement. Quoi. Alors, c'était à la 11e semaine, il y avait un test génétique qui était prévu, donc une prise de sang. Donc, la médecin a dit « Ah, on va faire une petite échographie pour regarder comment ça se présente, etc. » C'est là qu'elle a trouvé que la nuque était un peu épaisse. C'est ce qu'on regarde hein, pour détecter la trisomie. Il ne faut pas que la nuque ait plus de 3 mm à peu près à ce stade-là. Elle faisait un petit peu plus, donc elle en a parlé à mon épouse, qui était évidemment très très inquiète. Quoi. Donc la médecin l'a envoyée chez un deuxième médecin spécialiste en radiologie, échographie, puis qui était plutôt rassurante, qui a dit « Ah, mais c'est peut-être finalement pas si épais que ça, il faut refaire un examen, on va déjà attendre les résultats de la prise de sang, etc. etc. » Bon, sur le conseil de ces deux médecins, on est partis en vacances. On est arrivé quand même dans de drôles de dispositions, si vous voulez, à cause de ça. Une partie des personnes qu'on retrouvait ne savait pas que ma femme était enceinte, ce qui fait qu'on a commencé par le leur dire, tout en leur disant juste derrière, mais malheureusement, on vient avec une bonne et une mauvaise nouvelle. Et on ne sait pas laquelle des deux va l'emporter. Quoi. Et ma femme, elle avait un pressentiment négatif. Elle a très vite pensé que c'était mal parti, donc elle n'arrivait pas tellement à, disons, à garder espoir, et puis elle pensait plus qu'à ça. Elle était vraiment très, très, très inquiète de tout ça. Et 5 jours plus tard, on a eu les résultats du premier test. Donc celui qui est censé être fiable à 99% mais qu'il faut quand même confirmer. La médecin nous a appelé effectivement pour dire que malheureusement c'était positif pour la trisomie 21 et qu'il fallait faire un autre test qui s'appelle une choriosynthèse, donc une prise de liquide dans le placenta. Donc c'était une catastrophe. En fait le téléphone a sonné, on était à la maison, on est sorti de la maison, on était dans un jardin. Ma femme s'est effondrée, elle a hurlé, elle a crié de douleur. Pour elle, c'était l'horreur absolue.
Vous souvenez-vous de votre ressenti à ce moment-là ?
Bon, moi, ma priorité, c'était de la soutenir, au sens propre et figuré du terme, d'ailleurs, parce qu'elle, vraiment, elle n'avait plus de force dans les jambes, elle s'est vraiment effondrée très fort. Et la médecin nous a demandé de revenir de vacances. On était à un endroit de vacances où il fallait prendre l'avion pour rentrer. Il se trouve qu'il y avait un vol le lendemain, donc on est très rapidement parti, à vrai dire. Et puis voilà, le deuxième test a été fait. Donc il a fallu réattendre de nouveau 5-6 jours. Et puis effectivement, il était positif de nouveau.
Quand vous avez eu le résultat définitif, est-ce qu'il a été une fraction de seconde question de le garder ?
Oui. En fait, ce qui est particulier, c'est que avant l'interruption de grossesse, c'est une période bizarre parce que à la fois on est dans l'urgence, au sens où on attend des résultats, les résultats viennent pas, ah les résultats viennent, ah il faut d'autres tests, on va réattendre des résultats, puis si on a des résultats c'est de nouveau positif, ben il faut vite prendre un rendez-vous pour faire une interruption de grossesse, c'est une espèce d'urgence comme ça. Ça a duré quand même pas mal de temps finalement, parce qu'entre le moment où il y a eu la première inquiétude et l'interruption de grossesse, il s'est passé une douzaine de jours, je pense. Donc c'est quand même long, c'est un temps de stress, c'est un temps d'attente, c'est un temps d'angoisse, c'est un temps d'inquiétude, c'est un temps de beaucoup de pleurs, de beaucoup de soutien mutuel et de proximité, mais c'est pas un temps qui vous permet de vous préparer, c'est pas un temps qui aide à prendre la décision, bizarrement. Dans ces 12 jours, la certitude du résultat du test, elle n'a été que d'un jour et demi en réalité. On a su un soir et le surlendemain, l'interruption a été programmée. Donc quelque part, la décision, elle n'était pas mûrement prise et réfléchie, mais elle s'imposait à nous. En fait, ce qu'il y a de très paradoxal, moi j'ai trouvé dans cette expérience, c'est qu'on réfléchit beaucoup plus à la question de le garder ou de ne pas le garder après. Et ça a été beaucoup plus dur après qu'avant. C'est après qu'on s'est dit, est-ce qu'on a bien fait ? Est-ce qu'on aurait dû faire autrement ? Est-ce qu'on a vraiment pesé le pour et le contre ? Puis on se rend compte que non, on n'a pas pesé le pour et le contre. En réalité, on a pris la décision pour toute une série de raisons rationnelles, mais pas beaucoup pour des raisons affectives. C'est quand même un peu le fait qu'on ait une petite fille de 2 ans et demi qui m'a beaucoup amené à prendre la décision. À la limite, ça aurait été le premier de notre relation avec mon épouse. Peut-être qu'on aurait réagi différemment, mais là, c'est le deuxième. Et on se sentait pas forcément d'amener ça. Parce que c'est clair que d'accepter un enfant trisomique dans une famille, c'est un bouleversement pour la famille, c'est un bouleversement pour cet enfant-là. C'est bien entendu un bouleversement pour nous. Ça aurait été aussi un bouleversement pour mes 3 aînés. Je suis pas sûr qu'on aurait eu la force, à vrai dire, pour être tout à fait honnête. Il se trouve que, et ma femme et moi, on a travaillé avec des personnes trisomiques. Donc, on connaissait, si vous voulez, cette situation aussi, pour l'avoir vécu. Moi, j'ai vécu pendant une année dans une maison avec 6 ou 7 personnes handicapées mentales, dont 2 trisomiques. C'était une philosophie de vie où les handicapés vivaient avec les non-handicapés. C'était pas du tout un home, un atelier protégé ou je ne sais quoi, c'était vraiment un lieu de vie commune, si vous voulez. La journée, certains partaient travailler à l'extérieur, d'autres pas, on cuisinait ensemble, on mangeait ensemble, on vivait ensemble. Donc moi, j'ai vécu pendant une année avec 2 personnes trisomiques, un homme et une femme, des jeunes adultes. Et donc, je connais bien. Ma femme a travaillé aussi avec des personnes trisomiques, moins longtemps, mais suffisamment pour savoir ce que ça représente voilà, comme vie. Et puis on a aussi pris cette décision parce que, comme je vous ai dit, j'ai 57 ans, puis qu'une personne trisomique a besoin d'entourage à vie. Et donc ça veut dire que, ben, je sais pas, si Dieu me prête vie, il aurait eu 30 ans peut-être, quand son père serait décédé, peut-être moins. Et quelque part, ça serait retombé sur ma femme exclusivement. Donc c'était aussi pour moi une décision difficile à prendre, d'imaginer qu'on allait accepter de garder une personne. Et plein de côtés positifs, hein, puisque comme je connais bien les trisomiques, je connais bien aussi les côtés positifs, mais qui quelque part représente une charge que mon épouse aurait probablement eu à porter pendant peut-être, je sais pas, 10, 15, peut-être 20 ans de plus que moi. Donc, en fait, quand il y a eu l'interruption de grossesse...
C'était il y a combien de semaines ?
Il y a 2 semaines. Il y avait une forme de soulagement quand elle est sortie du bloc. Je pense que pour elle, ce n'était pas simple d'avoir en elle un bébé dont elle allait devoir se séparer d'une part, puis d'autre part qui était, entre guillemets, mal formé, quoi. Il portait un handicap, cet enfant. Donc, 12 jours de grossesse dans ces conditions, ça doit être très très difficile à vivre.
Comment est-ce que vous l'avez vécu, vous, à titre personnel ?
Ben, vous savez, si je témoigne aujourd'hui, c'est pas par hasard. C'est précisément parce que, dans le fond, pour le compagnon, le mari, le conjoint, il y a beaucoup moins de possibilités de s'exprimer. Quand vous dites à quelqu'un « on a eu ce problème, ma femme a dû faire une interruption de grossesse », la question qui vient tout de suite derrière, c'est « ah, et comment est-ce qu'elle va ?» Ou parfois « ah bon, et comment vous vivez ça, vous ?» Mais on vous pose rarement la question « et toi, comment ça va ?» Le compagnon, moi, je pense que la peine, elle est très différente. Parce que la mère... Elle l'a porté dès le tout premier jour, ce bébé. Elle l'a eu en elle, elle l'a senti en elle, elle a senti ses seins qui grossissaient, elle a vu son ventre qui grossissait, et puis elle a eu des nausées terribles, et puis des gros coups de fatigue. Enfin, elle l'a vraiment vécu. L'homme, il met un peu plus de temps à réaliser ce qui se passe. En fait, on démarre avec un peu de retard en tant que conjoint dans cette histoire-là. Je pense que dans le fond, quand il y a eu l'interruption de grossesse... Ma femme était à sa 12e semaine, puis moi j'étais peut-être à la 6e, dans la préparation, dans la réjouissance, dans tout ça. Alors la peine, elle est beaucoup plus forte chez la femme, donc c'est normal qu'on lui pose... Et puis c'est elle qui passe sur le billard quand même, parce que c'est billard, c'est un mot un peu exagéré, mais c'est quand même une anesthésie complète, c'est quand même une interruption de grossesse, puis après encore 2 heures de salle de réveil. C'est elle qui vit ça, hein. C'est elle qui doit se remettre après, il y a les saignements, il y a tout ça. C'est... Bon. Donc c'est normal qu'on s'intéresse beaucoup plus à la douleur, à la peine de la mère. Mais je constate quand même aussi que très occupée à la peine et au chagrin et à la douleur de la mère, même les plus proches peut-être oublient un peu de s'occuper de la peine du père. Alors, nous, on a été très proches dans cette histoire, mon épouse et moi. Donc, c'est à elle que j'ai parlé. Mais comme je devais aussi être soutenant, j'ai peut-être pas tout à fait parlé autant que j'aurais voulu parler.
Est-ce qu'il y a eu une forme de culpabilité ?
Oui. Je dirais que c'est ce qui dure le plus longtemps. Ça dure encore maintenant. Moi, ma première culpabilité, c'était de me dire « est-ce que je suis trop vieux pour faire des enfants ?» Donc, on est allé voir une médecin généticienne pour parler de ça. Moi, ça m'a beaucoup rassuré de savoir que, selon toutes les études scientifiques connues à ce jour, c'est manifestement pas l'âge du père qui est en cause, mais c'est malheureusement l'âge de la mère. Vous allez me dire, la société patriarcale est sauve, quoi. C'est pas la faute de l'homme, c'est de la faute de la femme. Bon. Mais indépendamment de ce genre de gag, vu notre situation, oui, c'était important de savoir ça. Non pas pour trouver un coupable, mais... pour se dire, si on remet ça à l'avenir, ça n'est pas une source d'inquiétude. Il y en a d'autres, mais ce n'est pas l'âge du père. Et puis, il y a une grosse culpabilité d'avoir interrompu une vie. Ça, c'est sûr. C'est un enfant. Hein. C'est un deuil. Peut-être un plus petit deuil que celui qu'on vit quand on perd un proche, quelqu'un qu'on a très bien connu, qu'on a beaucoup aimé et tout. Mais c'est quand même un deuil, ouais. J'ai pleuré, je pleure encore. Mais je suis allé au travail quand il a fallu. J'ai quand même pris quelques jours pour entourer mon épouse quand elle était à la clinique. Et puis le lendemain aussi. Puis le surlendemain, je suis allé au travail. Et c'est vrai que ma priorité, c'était quand même qu'ensemble, avec mon épouse, on passe à travers ça. Et puis qu'elle aussi. Et puis que manifestement, elle, qui avait quand même pas mal de chagrin et vraiment une grosse douleur, puisse tenir le coup et retrouver sa force. Ça, c'est quelque chose qui n'est pas facile au niveau de la culpabilité aussi. Quand vous commencez de nouveau à sourire, à rire, à aller mieux, c'est pas évident parce que vous dites « je devrais pas aller mieux, je viens de tuer un enfant ». Ben vous dites, ok, la vie continue, quoi. On sait pourquoi on l'a fait, enfin, tous les arguments rationnels ressortent, etc. Mais en fait, vous avez quand même juste eu un enfant. Un enfant qui aurait probablement une vie horrible, une vie difficile, ou peut-être pas. Hein. On ne sait pas, on ne saura jamais. Mais enfin, on a interrompu une vie, quoi, et pas de doute. Donc, d'accepter d'être de nouveau bien, de rire, d'aller au cinéma, au resto, etc., bah, ça a aussi plus dur pour mon épouse que pour moi, mais pour moi aussi un peu.
Est-ce que vous avez finalement considéré l'idée d'aller voir un psy ?
Alors, on va y aller, ouais. On va y aller une fois. Mais on n'a pas prévu de faire une série d'entretiens, forcément.
Et vous, à titre personnel ?
Non.
Pourquoi pas ?
Moi, je n'en ai pas ressenti le besoin. Moi, j'écris, donc j'écris, je marche beaucoup. Et quand je marche, ça m'arrive de parler, même parfois à haute voix. Donc j'ai pas mal parlé à cet enfant. Ouais. Ouais, c'est dur, hein. En plus, moi, j'ai 4 filles. C'est un garçon. Donc, c'était dur. Je pensais pas mal à la culpabilité d'avoir interrompu une vie. Et puis aussi pour lui expliquer pourquoi on l'avait fait. C'est dur, hein, parce qu'on l'a vu bouger, cet enfant. Il y a les chorégraphies. Et puis moi, je vous disais, je connaissais les trisomiques, je connais leur vie, je connais leur côté extrêmement attachant, extrêmement tactile, très, très physique, très à rechercher le contact, à se lever dans vos bras, même des jeunes adultes avec qui j'étais, ils viennent, ils prennent le bras, ils vous le mettent sur leur épaule, ils se serrent contre vous, etc. J'entends encore leur rire. C'est des rires très particuliers, des rires très pleins, très vrais, très... Donc d'interrompre ça, c'est dur, quoi. Mais heureusement, j'entends encore leurs pleurs. J'entends encore l'expression de leur différence. Et ça, c'était des pleurs très, très, très poignants. C'était vraiment des pleurs de détresse. Et ces pleurs-là, vous n'arrivez pas à les calmer. Je me rappelle très bien, moi j'étais jeune quand je m'occupais de ces gens, jeune adulte, mais c'était désarmant. C'était des pleurs d'un désarroi, comme vous souhaitez à personne de vivre, quoi. Et que vous n'arrivez pas à consoler, que vous n'arrivez pas à arrêter. Puis ça arrivait pour toutes sortes de choses. Ça arrivait parce qu'ils rentraient de l'atelier protégé où ils travaillaient, puis qu'ils avaient été discriminés, maltraités. Mais ils avaient, des fois, dans le bus, été confrontés à des remarques. Et puis aussi parce qu'ils ont quelqu'un dans leur famille qui vit une relation amoureuse, puis eux pas. Et puis l'inquiétude que ça ne leur arrive jamais. L'espoir que ça leur arrive un jour, mais l'inquiétude, ça leur arrive jamais. Enfin, tout ce désespoir, moi, il m'a marqué à vie. Et ça, franchement, c'est ce qui a soutenu ma décision pendant tout le processus. C'est que ce désespoir-là, malgré les rires, malgré la bonne humeur, malgré le côté attachant, tactile et tout, je le souhaite à personne. Et surtout pas à mon fils.
Est-ce que les gens autour de vous, une fois que votre conjointe est rentrée de l'interruption de grossesse, ont eu parfois des mots déplacés ou des maladresses, hein, j'entends pas du tout malveillantes, mais des petites choses qu'on peut dire parfois et qui blessent?
J'ai pas tellement le souvenir de ça, non. Disons, il y a des gens qui nous ont dit, eh ben, si ça nous arrivait à nous, on le garderait. Oui. Mais c'est pas vraiment blessant. Moi, je suis assez pour le parler vrai. C'est bien d'entendre que d'autres gens le feraient, mais j'ai pas pu m'empêcher de me dire, mon œil, tu le ferais pas. parce que tu te rends pas vraiment compte de ce que ça signifie, et puis t'as pas forcément mesuré, et c'est peut-être des convictions rapides qui t'amènent à penser ça, peut-être des convictions religieuses, par exemple. J'avoue, donc, quelque part, si j'ai réagi comme ça, c'est que ça m'a un peu blessé, mais je pense que c'est pas mal, quand même, qu'on amène ça sur le plateau. Parce que c'est une possibilité, puis je vous cache pas que nous, on s'est posé cette question après l'interruption de grossesse, comme je disais. Nous, on s'est dit, après, est-ce qu'on a bien fait? Est-ce qu'on n'aurait pas dû... Des fois, on se disait, est-ce qu'on ne devrait pas serrer les coudes et puis se dire que c'est ça notre vie, c'est ça qui nous est donné de vivre, et puis c'est ça qu'on doit vivre, et puis ça sera dur, mais c'est notre destin. Il y aura aussi des plaisirs, il y aura aussi des satisfactions, il y aura... Est-ce qu'on n'aurait pas dû faire ça, à vrai dire? Il y a cette espèce de soulagement qu'on ne s'est fait, et assez vite, juste derrière, arrivent les doutes et les questions. Puis on s'est posé la question de comment on allait faire pour dépasser ça. Alors on a aussi un peu regardé ce qui se disait sur le web. Alors il y a des quantités de choses sur le web. On en vient à détester le web, hein, je vous le dis tout de suite. Les forums, les trucs et les machins. Mais mine de rien, c'est pas inintéressant non plus. On a trouvé des couples ou des femmes qui témoignaient de situations analogues. Ça par exemple, ça nous a amené à nous dire est-ce qu'on va lui donner un prénom? Ça nous a amené aussi à réfléchir à est-ce qu'on va faire une sorte de petite cérémonie. En fait, on était assez troublés parce que avec une interruption de grossesse de ce type-là, l'enfant disparaît. Matériellement, vous ne savez pas où il est. Il n'y a rien. Ça troublait surtout mon épouse qui l'avait quand même, comme je vous ai dit, porté pendant 12 semaines. C'est que tout d'un coup, son ventre était vide et elle savait pourquoi était passé ce qu'il habitait avant, quoi. Et donc, on a décidé de lui donner un prénom. Et on a décidé de faire une petite cérémonie, en fait. Mais entre nous, juste nous trois, notre fille et nous deux. Et donc, on a acheté une boîte et puis une peluche bleue. C'est un garçon bleu. Et puis, notre fille a donné une lolette. Et puis, on a acheté une espèce de petit dépliant comme ça, vierge, sur lequel notre fille a fait un dessin, et nous on a écrit des choses dessus, des textes. Et puis on a fait graver une couverture. Et puis en fait, on avait prévu de faire ça un jour, puis on a reporté d'un jour, puis on a reporté d'un jour, puis on a reporté d'un jour. Et puis il y a eu un moment donné où on a senti qu'il fallait le faire. Pas tellement parce qu'on était prêts, en fait on n'était pas plus prêts que la veille et l'avant-veille, mais parce que ça devenait lourd d'avoir cette boîte à la maison, et puis notre fille l'ouvrait, et puis elle prenait la peluche, et puis elle prenait la lolette qu'elle lui avait donnée, puis elle la remettait, puis il y avait... on trouvait qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas avec ça. Et donc un jour on s'est dit, ça y est, il faut y aller, ça va être dur, mais il faut y aller, puis on est allé, puis effectivement. On a enterré tout ça dans une forêt qu'on aime beaucoup. Et de donner un nom et de faire cette cérémonie, ça a beaucoup apaisé.
Ouais. Votre petite fille, elle posait des questions?
Oui, beaucoup. De lui en parler, c'était pas un problème. Puis elle était très chou, elle comprenait beaucoup de choses. On voyait qu'elle incorporait, qu'elle emmagasinait. Elle-même revenait sur ce qu'on lui avait dit. Ça. Mais ce qui était difficile, c'était de trouver les bons mots. D'abord, moi, la première fois que j'en ai parlé, enfin, qu'on lui en a parlé, les mots que j'ai utilisés, c'était lui dire « il est malade ». Mais je lui dis « c'est un abruti de dire ça, parce que la prochaine fois qu'elle sera malade, alors elle va croire quoi, elle ? Qu'elle va finir dans une boîte ?» Donc, on a cessé de parler de maladie. Après, on a dit « il avait un problème, il ne pourra pas vivre », tout en sachant très bien qu'il aurait pu vivre. Quand vous utilisez des mots, il faut toujours imaginer comment ça va être compris par l'autre, dans la négative, en fait, c'est ça qui est difficile. Donc oui, elle a posé beaucoup de questions. Elle a compris quelque chose. Elle a perdu son grand-père il y a peu de temps. Et elle fait une association entre ce petit frère et son grand-père. Alors elle dit au ciel. Ce qui n'est pas vraiment un vocable que nous, on a utilisé. Mais je ne sais pas, peut-être qu'elle avait entendu dire que son grand-père était au ciel. Je ne sais pas, enfin, ça montre qu'elle a compris. Mais pour elle, c'est difficile parce que le grand-père, elle l'a connu, mais le petit frère, elle ne l'a pas connu. Donc c'est... pas évident, hein, tout ça. C'est pas évident. Heureusement qu'on lui avait dit qu'elle allait avoir un petit frère ou une petite sœur. Parce que, comme ça, on a pu lui dire qu'il n'y avait plus. Si on ne lui avait rien dit du tout, on aurait dû lui expliquer ce désarroi, cette inquiétude, cette angoisse, ces 12 jours d'horreur, etc. Puis, sans mettre de mots, sans mettre de noms, ça aurait été d'autant plus difficile, en fait. Heureusement qu'on lui a parlé. Ouais, non, je pense qu'il faut causer. Puis, ce que cette expérience m'a montré, c'est que l'homme et la femme du couple vivent la chose de façon différente. Précisément parce que la femme a porté l'enfant, peut-être c'est encore plus investi que l'homme. Donc c'est une expérience assez exceptionnelle et rare de soutien de l'autre dans la différence, je trouve. Ça m'a beaucoup frappé. Je ne me suis pas trop posé la question de savoir si ma femme avait raison de réagir comme elle a réagi. Le fait est qu'elle réagissait comme ça, moi j'ai réagi différemment. Mais je devais respecter sa détresse et son chagrin pour pouvoir être là pour l'épauler. C'est très difficile de trouver les mots. D'abord, on appelle ça une interruption volontaire de grossesse, c'est une absurdité. Au mieux, c'est une interruption consentie de grossesse, peut-être. La médecin disait interruption thérapeutique de grossesse, mais pour moi, la thérapie, c'est fait pour guérir. Donc là, on n'est pas en train de guérir, on est plutôt en train d'interrompre. En fait, ce terme d'interruption volontaire de grossesse est absurde. Je pense qu'il n'y a quasiment jamais d'interruption volontaire de grossesse. En tout cas, moi, je n'étais pas vraiment préparé à traverser ça. Je n'aurais jamais imaginé que ça serait aussi fort et aussi marquant et aussi troublant, quoi. Ça, c'est sûr. Moi, comme homme, je me disais, dans le fond, les avortements, c'est fait pour les jeunes filles qui n'ont pas eu de bol et puis qui étaient mal protégées et puis qui, à 16 ans, se retrouvent enceintes puis qui ne peuvent pas le garder pour des raisons qu'on comprend très bien. Pour moi, c'était un geste technique. La fille de 16 ans, elle n'a pas de chance, on interrompt. Et puis comme ça lui permet de continuer sa vie. Et puis je ne m'étais jamais posé la question de savoir qu'est-ce que ça faisait à la jeune fille de 16 ans, en réalité. Et encore moins à son compagnon, pour autant qu'il soit dans les parages. Donc, il y a beaucoup d'hommes qui, probablement, ne mesurent pas ce que c'est. Puis même quand vous leur dites, mais tu sais, c'était pas si facile et tout, sont pas forcément très à l'aise avec ce sujet. Ils cherchent à écourter la conversation, ils passent assez vite à autre chose. Ils ne relancent pas, vous parlez d'un truc, puis ça s'arrête là. Puis après, il y a toutes les manifestations physiques de malaise, on se gratte la barbe, on sautille, on passe à autre chose, on va se faire un café. Voilà, tout ce qu'on fait tous les jours quand on n'est pas très à l'aise dans une situation et qu'on a envie de passer à autre chose, quoi. Donc, j'espère que mon témoignage permettra à d'autres de mettre des mots sur ce qu'ils ont vécu plutôt que de se barricader, quoi. Ça me ferait plaisir si ça suscitait ça. Je pense que c'est important parce que on se fait beaucoup de bien à nos douleurs quand on peut les verbaliser, quand on peut les échanger. On se fait du bien quand on sait que d'autres sont déjà passés par là, puis qu'on entend comment est-ce qu'ils s'y sont pris pour franchir les obstacles qu'on connaît pas. Avec mon épouse, on a discuté avec une femme mais qui avait vécu une interruption de grossesse quand elle était jeune. Elle l'avait fait comme ça rapidement, trop jeune, pas de travail, pas de couple, rien du tout, elle pouvait pas garder cet enfant. Et qui a dit qu'il avait fallu 20 ans pour réaliser ce qui s'était passé. Et pour accepter ce qui s'était passé. Donc, je pense qu'il ne faut surtout pas enfouir ça. Il faut vraiment écouter ce que ça génère chez soi. Puis peut-être que si ça ne génère rien, peut-être qu'il faut aller voir quelqu'un qui peut faire surgir. Un psy ou un ami ou un pasteur, un prêtre, je ne sais pas. De verbaliser, quoi, de mettre des mots. Plutôt que de garder ça dans la tête. En parlant, on fait sortir ce qu'il y a au fond. Et moi, je parlais dans la rue à cet enfant qu'on a perdu. Et ça m'a fait réaliser plein de trucs. Parce que cet enfant, il fait partie de notre famille. Il fait partie de notre famille. Il aura une vie très courte. On ne l'aura pas connu. Mais il est là, il sera toujours là. C'est comme ça. Ouais.
Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode de Brise-Glace. Je suis Célia Héron. Cet épisode a été réalisé en collaboration avec Virginie Nussbaum et monté par Sylvie Coma. Pour découvrir tous les autres, rendez-vous sur la page letemps.ch/podcast ou sur vos applications d'écoute. À dans 15 jours.